Bonsoir. Le Sénat a déclaré recevable le projet de la loi électorale et l'a envoyé à la commission politique, administrative et judiciaire pour toilettage. Les divergences persistent toujours sur trois points, à savoir les seuils d'éligibilité, la caution et la machine à voter. Après avoir été adopté à l'Assemblée nationale et jugé recevable au Sénat, quelle analyse faire du processus d'adoption de ces projets de loi? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec Patrick Thierry André Kakwata, député national et président du mouvement des réformateurs libéraux, un parti politique membre de la majorité présidentielle. Il est aussi président de la commission environnement et ressources naturelles de l'Assemblée nationale. Bonsoir honorable Patrick Thierry André Kakwata.
Bonsoir monsieur Guy Maté et j'en profite pour saluer la population de Kolwezi. Bonsoir à cette population.
Joseph Kongolo, analyste politique. Bonsoir, monsieur Joseph Kongolo.
Bonsoir.
Et lui va nous rejoindre, c'est le professeur Jacques Joly. Il est sénateur de l'opposition, inspecteur général du MLC. Il est aussi vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Sénat a déclaré recevable ce mardi en plénière le projet de la loi électorale très controversé. Dans sa réplique aux multiples demandes des sénateurs de rejeter ou geler ce texte, le vice-premier ministre de l'Intérieur a affirmé que ne pas examiner ce texte signifie approuver un nouveau report des élections. Pour Emmanuel Chadari, la disposition portant sur les seuils des représentativités nationales est l'œuvre de l'Assemblée nationale et non du gouvernement. La Chambre haute du Parlement devrait, d'après lui, s'assumer en toute responsabilité pour rendre ces textes potables. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Le gouvernement a parlé du seuil à 3%, pas au niveau national, au niveau de la circonscription. Et l'Assemblée nationale a adopté ce texte et ils ont mis 1% au niveau national. La balle est dans votre camp. Il ne faudrait pas que la CENI dise qu'il n'y a pas d'élection parce qu'il n'est pas la loi. Nous ne devons pas continuer à flouer continuellement le peuple en reportant encore les élections déjà prévues par la CENI en décembre 2018 en bloquant une loi qui est si simple. Si vous trouvez qu'il y a des dispositions prévues par la Chambre sœur et qui énervent les honorables sénateurs, il faut les enlever en commission. Revoir les taux de caution à la baisse, comme vous l'avez proposé ici. Faites-le. Comment on peut aller aux élections avec une machine à frauder? Il faut dire ça aux députés et non pas renvoyer au mois de mars. C'est dangereux. Si le seuil n'est pas intéressant, discutez avec eux. Et après ça, je parle, le reste doit faire l'objet des contacts politiques d'une chambre à l'autre.
Professeur Jacques Joly, bonsoir. Je rappelle que vous êtes sénateur de l'opposition et inspecteur général du MLC. Vous êtes aussi vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. D'abord, en ce qui concerne la forme, pourquoi les sénateurs ont cautionné que le projet de loi soit envoyé à la commission PAJ sans qu'il n'ait été au préalable soumis au vote pour être déclaré recevable ou pas?
Mais je ne peux pas répondre à une question qu'il fallait ou qu'il faut poser à celui qui ou à ceux qui assurent la police de débat. Ce qui est sûr, c'est que l'article 122 de notre règlement intérieur, après la clôture de débat, si les clôtures de débat est actée par la plénière, il est donc important que la plénière se prononce sur la recevabilité de la loi. Et dans le cas espèce, je crois que le président du Sénat, dans toute sa sagesse et dans toute sa discrétion, a senti qu'il y avait énormément de problèmes et qu'il a préféré que les débats continuent au niveau de la commission de manière discrète, en prenant un peu des libertés avec le règlement intérieur. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point-là.
Et logiquement, c'est la plénière qui envoie les textes à la commission et non le président de la Chambre. Dans les cas d'espèce, c'est quoi la conséquence que prévoit le règlement intérieur du Sénat? La commission peut agir, peut accepter d'examiner un texte de loi qui n'a pas respecté la procédure classique?
Mais la PSJ, la commission, n'est qu'une chambre ou un atelier du travail du Sénat. La PSJ n'examine pas à son niveau la recevabilité ou la non-recevabilité. Il était fait que le droit parlementaire, comme l'ensemble du droit constitutionnel, c'est un droit éminemment politique, mais il faut faire attention chaque fois à faire le chevauchement de textes parce que ça finit toujours par nous rattraper d'une manière ou d'une autre.
Mais ce qui a étonné, ce qui était les personnes qui étaient présentes, n'est-ce pas, à la plénière, c'est que les sénateurs, aussi bien de la majorité présidentielle que ceux de l'opposition, sont restés passifs lorsqu'ils se sont rendus compte que le président du Sénat a contourné la procédure classique.
Mais non, on ne peut pas rester passif. Il y a eu de voix ou des mains qui se sont levées pour poser une question ou une motion de procédure. Mais encore une fois, la chambre haute, c'est une chambre de sages. On n'allait pas commencer à se chiffonner devant le public avec notre président. Donc nous espérons que toutes les conséquences politiques de cette plus ou moins gestion juridique non conforme, on pourra être rattrapé dans une approche beaucoup plus politique pour que nous puissions trouver une solution globale et harmonisé à la fin.
Et après que la loi ait été adoptée à l'Assemblée nationale sur fond des contestations, l'attention était focalisée sur le travail des sénateurs. Et à première vue, lors des premiers débats, on avait l'impression que le Sénat allait rejeter purement et simplement ces textes des lois. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les sénateurs n'ont pas souhaité créer une crise qu'ils auraient eu du mal à gérer?
Les sénateurs ont dit ce qu'ils pensent et ce que pense le commun des mortels que nous côtoyons sur l'inopportunité et les incohérences ou les difficultés, c'est pas de cette loi qui veut déjà compliquer une situation déjà complexe dans notre pays. Et nous avons demandé au président du Sénat qui déjà, avant que nous commencions les discussions, avait déjà pris contact avec la plus haute autorité pour lui faire part du caractère conflictuel de cette loi. Vous savez, la loi électorale est la loi la plus importante dans un système politique. C'est une loi qu'on considère comme faisant partie du bloc de constitutionnalité. Et il est toujours exigé que cette loi fasse l'objet de longues discussions, parce que si cette loi n'obtient pas le consensus, c'est que le jeu politique à venir est lui-même problématique. J'ai d'ailleurs, au cours de mon intervention, insisté sur une jurisprudence très récente de la Cour constitutionnelle allemande qui a dû recaler la réforme de la loi électorale allemande en 2012, faute d'avoir acquis ou, n'est-ce pas, été adopté par consensus. Il ne s'agit pas de n'importe quelle loi. Il ne s'agit pas simplement d'un texte technique d'attribution de sièges. Il s'agit de la stabilité de l'ensemble du système politique. Il faut se revoir dans l'histoire. Vous savez, on parle beaucoup des élections de 2011 qui auraient été des élections catastrophiques, mais on oublie que la base de catastrophe, c'est d'abord la révision cavalière de la loi de la Constitution de 2011, qui s'est faite, cette révision, en janvier 2011, c'est-à-dire qu'en plein processus électoral. Et à partir du moment où le parti sont dans une position d'affrontement. Mais il ne faut pas vous attendre à ce que vous ayez des élections apaisées. Voilà pourquoi il est toujours conseillé dans le domaine politique, pas simplement au Congo, mais comme je vous ai dit, que la loi électorale fasse l'objet de longues discussions pour trouver le consensus. On ne parle pas d'unanimité, mais il faut que le plus grand nombre, au sein du gouvernement, il est établi, et le ministre Ramazani l'a dit, qu'ils se sont entendus et ce consensus obtenu par le gouvernement a été défait à un certain niveau, notamment au niveau de nos amis de l'Assemblée nationale. Le texte a été voté à 285 voix sur 500. On me dira, oui, c'est la majorité. Mais vous savez, le jeu politique se joue à deux. Il y a la majorité et l'opposition. C'est comme mon collègue qui est du domaine scientifique, il sait que pour qu'il y ait du courant, il faut qu'il y ait un courant positif et un courant négatif. Et l'opposition chez nous est sacrée. Donc quand on gère des chambres aussi politiques, pour des questions aussi sensibles, il faut avoir des mécanismes de conciliation des uns et des autres. Parce que si nous allons dans un texte où une partie veut absolument se donner les atouts et les facilités pour, n'est-ce pas, dominer la scène politique, ça crée des frustrations parce que le pouvoir de suffrage, c'est le pouvoir le plus important dans un État. C'est le pouvoir de désigner ceux qui vont prendre en charge votre devenir. Donc il est important que nos acteurs politiques connaissent bien sûr le droit, mais surtout le non-dit de droit. Beaucoup ne connaissent pas ça et ils croient que bon, c'est un jeu avec lequel on peut s'y livrer. Mais ces jeux-là, c'est un jeu qui fragmente la nation, qui fracture la nation. Et nous sommes déjà une nation très fragile. Il faudrait que nous puissions, dans l'amour de ce pays, savoir prendre de bonnes lois.
Merci, professeur. Patrick Thierry, André Kakwata, député national et président du mouvement des réformateurs libéraux, un parti politique membre de la majorité présidentielle. Vous êtes aussi président de la commission environnement et ressources naturelles à l'Assemblée nationale. Le projet de la loi électorale se trouve à la commission PAJ du Sénat, sans avoir été soumis au vote à la plénière pour être déclaré recevable ou pas. Comment vous comprenez cela?
Vous devez savoir que je ne peux pas, à mon niveau, juger une chambre sœur. Ils ont un règlement d'ordre intérieur. Et j'ai suivi tout à l'heure le collègue Joly, qui a pu justifier ou qui a pu donner des raisons. Moi, en tant que député national, je suis régi par un règlement d'ordre intérieur qui est jugé constitutionnel au niveau de...
On rappelle que vous êtes un ancien sénateur.
Oui, ancien sénateur, mais à ce jour, je ne peux pas juger une chambre sœur. Je préfère m'en tenir à ma chambre, là où je suis, la chambre basse.
Et en procédant de cette manière, le président du Sénat n'a-t-il pas évité d'être tenu responsable d'une crise qui pourrait bloquer toute la machine électorale?
Pourquoi vais-je porter ou prêter intention au président du Sénat? C'est un président que je respecte beaucoup et qui m'a dirigé. Donc je me refuse de lui prêter des intentions. Mais je dis, je ne peux pas m'interférer dans la gestion d'une chambre sœur.
Et vous n'avez pas été surpris par la démarche qui a été menée par les sénateurs?
Oui, une surprise, c'est tout à fait normal. Mais il faudrait savoir maintenant les dessus de cartes ou les dessous de cartes. Parce que d'autant plus que je n'étais pas... au Sénat, je n'ai pas suivi du début jusqu'à la fin comment ça se passait. Donc pour l'instant, moi je ne peux rien faire. Je ne peux que répondre à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale.
Honorable Kakwata, on a l'impression qu'on est en train de transposer au Sénat les débats qui a eu lieu à l'Assemblée nationale parce que les divergences sont restées les mêmes, les seuils d'éligibilité, la caution, la machine à voter. En ayant envoyé au Sénat un texte avec des dispositions qui fâchent, l'Assemblée nationale n'a-t-elle pas piégé le Sénat?
Non, il ne faudrait pas dire que ce sont des dispositions qui fâchent. Nous nous sommes assumés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons envoyé un texte. Et la pratique parlementaire le dit très bien. Une chambre qui reçoit le projet de loi ou une proposition de loi en premier traite ce projet de loi ou la proposition. Après, renvoie à l'autre chambre pour une seconde lecture. Dans le cas où le projet ou la proposition de loi a été adopté en des termes divergent, il y a une commission mixte paritaire instituée Sénat, Assemblée nationale pour avoir aplanir les divergences, que nous puissions avoir un texte commun. Nous nous sommes assumés de ce texte qui est parti à l'Assemblée, au Sénat. Ils vont traiter en seconde lecture les textes qui leur a été envoyés par l'Assemblée nationale. Ils sont dans le plein droit, tel que même le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur l'a dit, assumez-vous et vous aurez le temps de parler avec vos collègues de la chambre sœur, de la chambre basse. Donc il y a une commission mixte paritaire. Il n'est pas dit que ce que nous avons envoyé, c'est une parole d'évangile ou c'est un texte de la Bible auquel les sénateurs diront « Amen ». Non, ils peuvent aussi amender notre texte. On aura une commission mixte paritaire et dans cette commission mixte paritaire, nous allons aplanir les divergences. Ce n'est pas une première fois de la pratique parlementaire de le faire. Et le collègue Joly ne me contredira pas à combien de fois, même quand j'étais au Sénat, combien de fois des textes sont venus de l'Assemblée nationale et par après est venu que nous suivons la position du Sénat. Et ailleurs aussi, nous suivons la position de l'Assemblée nationale. Donc à ce niveau ici, il n'y a pas à l'armée, mais c'est question de suivre la pratique parlementaire, comment le texte de loi est légiféré.
parce qu'il faut suivre la pratique parlementaire. Le vice-premier ministre a dit aux sénateurs que s'il y a des dispositions qui énervent, il faut les enlever en commission honorable, même si le texte est nettoyé en commission et qu'on élague les dispositions qui fâchent. Ça servirait à quoi quand on sait qu'en cas de divergence entre les deux chambres, c'est le point de vue de la chambre basse qui passe?
Non, c'est en cas de divergence qui persiste et que l'Assemblée se cramponne ou se campe sur sa position. Mais il y a des divergences qui arrivent pour lesquelles les sénateurs donnent des arguments valables. L'Assemblée nationale s'incline. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons suivi la position du Sénat. Donc ici, il ne faudrait pas déjà mettre la charrue devant le bœuf en disant que l'Assemblée nationale va se cramponner. Il ne faudrait pas déjà le dire ainsi, parce que nous ne savons pas encore les arguments du Sénat. Le Sénat peut venir avec des arguments valables. Je peux vous donner un exemple, une anecdote. Si vous prenez un enfant aujourd'hui, vous lui demandez de dessiner un poisson, il vous dessine le poisson. Par après, vous lui dites, dessinez encore un deuxième poisson, vous allez voir que le deuxième poisson sera plus meilleur que le premier. Pourquoi? Parce que les erreurs constatées dans le premier, il les améliore dans le deuxième. C'est pour cela que notre chambre est bicamérale. Et sur le plan législatif, c'est que nous traitons en première lecture, dans le sens que nous avons été saisis les premiers. Nous renvoyons en seconde lecture pour que même là où nous nous sommes trompés, eux peuvent voir. Ce n'est que maintenant de ce chemin-là, de ce parcours, première et deuxième, vient maintenant une commission mixte paritaire qui nous permet d'aplanir nos divergences, parce que eux donneront des arguments en disant, vous voyez, la virgule que vous avez mise ici a tout changé le contexte. Je viens de suivre tout à l'heure le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Que le texte qui est venu du gouvernement, c'est un texte qui parlait d'un seuil à la circonscription. Ça m'étonne. Moi, je peux présenter aujourd'hui le texte qui est venu à l'Assemblée nationale. C'est un texte qui parle du seuil au national.
Des 3%.
Mais, donc voilà qu'aujourd'hui, moi j'ai entendu à la circonscription, les sénateurs peuvent évoluer. Cela va même nous interpeller, nous les députés, s'ils ont des arguments valables. Parce que nous, on n'a pas maintenu 3%, on a eu à rabaisser à 1%. Si les arguments qui viennent du Sénat sont valables et qui peuvent nous retourner en arrière en disant nous allons à la circonscription, pourquoi ne pas le faire? D'autant plus que cette loi, ce n'est pas une loi des députés, c'est une loi de tous les Congolais.
Alors, Kwakota, on sait comment la majorité tient à cette loi, notamment dans ces dispositions qui fâchent, le seuil d'éligibilité, la caution et la machine à voter. Et lorsque vous sondez vos amis de la majorité, vous pensez qu'ils sont prêts, n'est-ce pas, à lâcher du lest
Non, vous devez comprendre une chose.
Au Sénat, si le Sénat corrigeait ce texte.
Vous devez comprendre une chose. Du moment où le texte est arrivé, le projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale, l'article 237-TER de la loi en vigueur, qui interdisait le vote électronique, était supprimé. Mais après un débat à l'Assemblée nationale, l'article 237-R a été réhabilité. On a demandé à ce qu'on puisse le retourner et l'amendement a été retenu. L'article 237-R a été retourné, qui dit on interdit au recours du vote électronique. Quand vous me parlez d'une machine à voter, si aujourd'hui nous tous nous avons prouvé que cette machine fonctionne d'une manière électronique, c'est qu'elle n'existera pas. Donc ce n'est pas à dire que bien que c'est parti là-bas au Sénat, mais c'est parti au Sénat avec un texte qui, le 237-R, est rentré en vigueur, est rentré avec force dans la loi en disant on ne peut pas recourir à un vote électronique. Si cette machine à voter prouve réellement que c'est de l'électronique, je vous dis déjà aujourd'hui qu'elle n'existera pas. Donc vous n'allez pas dire que nous avons envoyé une disposition
et
qui fâche au Sénat.
Vous allez accepter qu'on puisse élaguer ça.
Mais l'article déjà le dit. Nous, merci, les députés, nous avons voté en disant le retour de 237-TER qui interdit le recours au vote électronique.
Merci, honorable Joseph Kongolo, analyste politique. Comment vous analysez les débats qui se déroulent au Sénat au sujet du projet de la loi électorale?
Bien, merci beaucoup pour la question. Je salue mes co-débatteurs, l'honorable élu sénateur. Je voudrais d'abord dire que nous sommes en train de discuter sur une loi électorale qui est la production politique des politiciens congolais dans le contexte politique que nous connaissons tous, n'est-ce pas, avec les enjeux que nous connaissons tous. tous. D'accord ? Il faut tracer ce contexte. Deuxièmement, je voudrais insister là-dessus. La loi électorale dans tous les régimes, n'est-ce pas ? Et dans le monde entier, c'est toujours un instrument politique. N'est-ce pas ? Entre les mains des détenteurs du pouvoir. C'est ainsi que, vous allez en Allemagne, comme le sénateur l'a dit, en France, partout, généralement, à presque chaque élection, il y a modification. Presque chaque élection, il y a une modification de la loi. Donc, le régime en place, il y a un instrument entre ses mains pour orienter, n'est-ce pas, la politique, pour chercher à conserver le pouvoir, n'est-ce pas, en politique. C'est politiquement correct. Politiquement correct. Donc, vous n'allez pas soustraire le régime congolais, la majorité au pouvoir aujourd'hui, d'utiliser cet instrument politique pour s'offrir des avantages électoraux aux élections de 2018.
Donc, politiquement, ça s'est justifié.
Politiquement, c'est correct. Là, nous sommes d'accord. Politiquement, c'est correct. Mais je voudrais dire encore un autre élément. C'est que cette loi électorale est venue d'abord résoudre un problème interne à la majorité. Ou si vous voulez, résoudre un problème au PPRD. Vous savez que l'ensemble des cadres du PPRD sont devenus des acteurs, n'est-ce pas ? Des présidents des partis politiques. Voyez-vous ? On a dispersé, c'était la stratégie de 2011, et en 2018, on voudrait rassembler, on voudrait ramener, n'est-ce pas, cet ensemble, n'est-ce pas, d'anciens cadres du PPRD, revenir à l'alma mater, donc au PPRD. Parce que c'est presque creux et vide aujourd'hui. L'ensemble des structures du PPRD fonctionne non pas comme un parti politique, mais comme une plateforme. Parce que ce sont les présidents des partis politiques qui viennent, n'est-ce pas, assister aux réunions du parti, alors que c'est un non-sens. Donc, on a senti qu'il y a un vide dans ce PPRD. Il faut ramener, n'est-ce pas, tous ces enfants qui sont devenus des partis politiques dans le parti politique à partir de ce qu'on appelait le seuil.
Et telle que les choses se passent actuellement au Sénat, Joseph Kongolo,
oui.
Les personnes qui se sont senties lésées par l'adoption de ces textes à l'Assemblée nationale pourraient-elles trouver gain de cause au Sénat?
Disons qu'en 2015, la loi électorale a rencontré un obstacle simplement parce que la volonté populaire était ouverte, n'est-ce pas? Les gens sont descendus dans la rue et les sénateurs ont répondu aux vœux populaires à cause de l'action de rue.
Aujourd'hui, ce qui a manqué cette fois-ci.
Voilà, l'absence de cette action de rue, l'absence de la manifestation ouverte de l'opinion, n'est-ce pas, a laissé passer. Vous avez vu comment ça s'est passé au Sénat. Dans certains milieux, on a semblé me donner un peu beaucoup plus de sagesse aux sénateurs. N'est-ce pas? Parce que l'exemple de 2015 est encore frais dans les mémoires des gens. Je leur ai dit que ce sont des hommes et ce sont des Congolais comme nous. Nous connaissons suffisamment. S'il n'y a pas cette action populaire, eh bien, les sénateurs risquent de nous livrer un autre spectacle. Effectivement, aujourd'hui, on est à mi-chemin. Nous ne savons pas si ce texte sera déclaré recevable ou pas. Voyez-vous? J'ai entendu le sénateur tout à l'heure tenter avec moins de chaleur. Je sais qu'il est très inconfortable, n'est-ce pas, quand il donnait cette réponse. Je sens effectivement qu'il y a un malaise total au sein du Sénat lui-même. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle position prendre, la position populaire ou la position, alors la volonté du régime, s'il faut le dire, la volonté du régime. Donc ils sont dans une situation d'indélicatesse totale.
Oui, vous avez suivi le professeur Jacques Joly qui estime que c'est une loi politique très importante et qui nécessite un certain consensus. Tel que vous analysez la psychologie des hommes politiques qui constituent, n'est-ce pas, la classe politique de la RDC, vous pensez que les gens sont disposés aujourd'hui à parvenir à un consensus au sujet de ces projets de loi?
Oui, en politique, à tout moment, les acteurs peuvent parvenir à un consensus politique. Mais il faut s'écouter. Il faut écouter l'autre, voyez-vous. Il faut écouter l'autre et se mettre d'accord sur les objectifs, sur ce que nous voulons ensemble. Nous pouvons être dans des partis différents, mais notre volonté est unique, voyez-vous. Il faut être capable, n'est-ce pas, de se rapprocher de cette volonté unique. Alors, quand la classe politique ne sait pas se rapprocher de la volonté unique, alors ça devient très compliqué. Vous vous rappelez, aux États-Unis, il y a eu des élections très conflictuelles, rappelez-vous. Mais il y a eu la maturité. La culture politique, le décret de la culture politique des acteurs politiques qui a démontré que non, attention, il faut céder, il ne faut pas créer un conflit autour, n'est-ce pas, des élections, un contentieux inutile, eh ben, nous risquons de ne pas paraître comme des hommes normaux. ils ont cédé. Vous rappelez, il y a 3 ou 4 élections américaines qui sont très conflictuelles dans le fond, mais en réalité, vous sentez que c'est par la maturité, n'est-ce pas, qu'ils ont résolu leurs problèmes. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est possible, mais aujourd'hui, les intérêts sont tellement divergents. Il y a les uns, n'est-ce pas, qui veulent à tout prix, par le télescopage, vous comprenez, par le télescopage, ils veulent tous, ils ont créé une entorse des procédures. Procédure électorale, et cela va créer un frein, un conflit, et surtout que nous sommes dans une situation de chaos. Un chaos aujourd'hui qui est diffus, bien sûr, mais on lui donne les voies pour s'ouvrir à cause de cette tergiversation des politiques aujourd'hui, des textes qui ne respectent plus la procédure.
Vous avez vu l'honorable Kakwata qui a dit qu'ils ont laissé une ouverture au sujet de la machine à voter. Il dit que si le Sénat prouve qu'il s'agit d'une vote, plutôt d'un vote électronique, on va élaguer cette disposition. Est-ce que vous pensez que la majorité qui apparemment tient à ces modes de vote, la majorité pourrait être disposée à accepter qu'on puisse élaguer cette innovation?
Non, c'est pas ça. Quand vous suivez, vous lisez Himmler, vous lisez Goebbels, vous allez sentir c'est que c'est ce discours politique. C'est pas un bon discours politique. D'accord? C'est pas un bon discours politique, je vous le dis. C'est un discours politique, vous comprenez que derrière ça, il y a des non-dits, il y a des ruses, il y a des subterfuges. Les procédures sont claires. Quand vous adoptez un texte dans des termes différents, c'est l'Assemblée nationale qui a la prépondérance. Vous croyez que l'Assemblée nationale va revenir sur ces choses? Quand nous savons comment ce texte a été voté au niveau de l'Assemblée nationale? Ah non, faut pas se foutre le dos dans l'œil. C'est pas ça. Nous savons notre pays. Nous connaissons les politiques, n'est-ce pas, dans notre pays. Mais je voudrais terminer une chose. C'est que la transparence du jeu politique commence toujours par la consensualité de la loi. C'est un élément fondamental, le sénateur l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la légitimité repose sur la consensualité de la loi électorale. Donc si les partis en présence ne sont pas réunis par un consensus, je vous dis que le reste va donner naissance à une sorte d'illégitimité institutionnelle, d'illégitimité d'acteur. Merci. Et ça va nous créer une situation semblable à celle qui est au Kenya.
Merci, professeur Jacques Joly. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Goma, au nord Kivu.
Moi, c'est Ferdinand Kendamina. Je vous appelle à partir de Goma, dans la province du nord Kivu. Je ne trouve pas étonnant que ce projet de loi soit jugé recevable par le Sénat, en ce sens que l'essentiel avait déjà été fait par l'Assemblée nationale, selon les mots d'ordre et le bon vouloir de la majorité présidentielle. À ce stade, le Sénat se trouve être dans une exigence temporaire, d'une part, liée à la fin de la session de septembre, et auquel cas, si cette loi n'est pas votée pendant les quelques jours restants, elle devra encore attendre jusqu'au mois de mars 2018. Et cette démarche paraît, à mon avis, raisonnable. D'autre part, le calendrier électoral qui est contraignant du point de vue des dates et que la non-recevabilité de cette loi pourrait être analysée encore par l'opposition politique comme une stratégie pour le Sénat de vouloir prolonger les délais pour l'organisation d'élections avec la menace du vice-premier ministre Emmanuel Chadari. Le Sénat n'a donc pas d'autre choix.
Oui, professeur Jacques Joly.
Oui, je comprends la préoccupation de notre frère. Vous savez, je voudrais seulement lui dire qu'il y a deux façons de faire la politique. La politique perçue au sens machiavélique comme l'art de conserver le pouvoir par tous les moyens, honnêtes ou malhonnêtes, ruses, violences ou brimades. Et la politique perçue comme l'art avec lequel on doit transformer la cité. À partir de cette deux visions politiques, on peut savoir ce que l'on veut. Vous savez, j'ai suivi mon frère et ami Kakwata. Oui, je suis tellement habitué à lui que je alors avec lui, vous savez, quand il dit que il est étonné par le propos du vice-premier ministre sur le siège et sur le seuil au niveau de la circonscription ou au niveau national. Mais la majorité qui est à l'Assemblée est en osmose avec la majorité qui est au gouvernement. Mais lorsqu'on est dans le ruse, dans le faux, Et je peux même aller plus loin. On est dans une démarche presque spécieuse, si pas frauduleuse.
Oui, mais s'il y avait une certaine osmose, mais pourquoi, comment vous expliquez l'étonnement de l'honorable Kakwata?
Mais c'est justement ce qui démontre que une majorité qui a trouvé un compromis avec son opposition au sein d'un gouvernement, qui vient démonter ces consensus obtenus au sein du gouvernement au niveau de l'Assemblée. Quand vous voyez la manière dont on traite l'article 237-TER, le collègue Kakwata, Patrick, je préfère, est ingénieur. Le vote électronique, c'est un vote qui utilise un système, et dans le cas présent, la machine à voter. On appelle ça le vote électronique. Aux États-Unis, on appelle voting machine. Le voting machine, c'est un vote. Donc, vous avez soit l'ordinateur qui est là. Comment un ordinateur ne peut pas être électronique? C'est un ordinateur à charbon? Mais c'est franchement un vote qui utilise comme schéma un écran tactile. Vous faites une impulsion. On a dématérialisé le bulletin. Mais vous savez, il y a même des gens qui ont dit, oui, mais c'est une imprimante, mon Dieu.
Mais ils disent qu'ils sont prêts, n'est-ce pas, à vous faire des
conseils. C'est de la mauvaise foi. Il faut arrêter. C'est notre pays, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est notre pays. Donc, la trace papier qui sort de l'ordinateur pour vous dire que, effectivement, votre vote a été enregistré. C'est ça qui va vous servir de bulletin de vote. C'est pas un bulletin de vote. Le bulletin de vote est un document sensible qui a des caractéristiques. Donc, le vote sont enregistrés comment? Par un outil informatique. Alors on dit non, c'est une machine à voter, c'est un vote semi-électronique. Non, c'est un vote. Non, soyons sérieux. Quand nous traitons de ces questions, il s'agit de notre pays. Et nous devons nous poser la question, comment un pays aussi riche peut se retrouver parmi les pays les plus pauvres? Tout simplement parce que nous avons une classe politique médiocre.
Merci. Honorable Kakwata, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province de Katanga. La recevabilité de ce projet de loi anticonstitutionnelle par le Sénat, envahi par les policiers, vient de consacrer la mort de la démocratie dans notre pays. Car le 3 points soulevés par l'opposition ne viole non seulement la Constitution, mais aussi ils ne tiennent pas compte de la situation sociale des Congolais. Je pense que la RDC vient de faire un grand pas en arrière en laissant passer ce projet de loi qui favorise juste une catégorie de personnes.
Oui, honorable Kakwata.
Merci beaucoup, Patrick Mbouli Kassama Kitanga de Lubumbashi. Je vous remercie pour votre question. Ce que vous devez savoir, on ne recule pas. Nous sommes en train d'assainir le secteur politique. Aujourd'hui, les partis poussent comme des champignons. Si on a eu à mettre le seuil, c'est juste pour savoir mettre hors de la course les partis qui ne méritent pas. Ça, c'est un. Ces seuils devaient venir.
Moraliser la vie publique.
Même si en 2011, et qu'on accuse la majorité d'avoir multiplié des partis, c'était pour cause de stratégies politiques ou des stratégies électorales. Aujourd'hui, la majorité va-t-elle accepter qu'il y ait un Far West dans la démocratie, plusieurs partis politiques et tout? Nous demandons à ce que nous puissions faire rentrer. Et quand vous faites la politique, il ne faut pas être extrémiste. Il faut savoir, pour l'intérêt du peuple, que le consensus aussi vaut. Ça, c'est un. Et puis, de deux, tout à l'heure, le collègue Joly. Si j'ai parlé de retour de l'article 237-TER, il est juriste, éminemment constitutionnaliste. Donc, il a compris que c'est une manière d'écarter cette machine à voter. Parce qu'on vous dit qu'on ne recourt pas au vote électronique. Et je l'ai dit en des termes que lui, en tant que juriste, devait comprendre que l'article 237-TER est rentré avec force dans la loi en vigueur, dans le projet de loi. Parce que c'était déjà supprimé quand le projet venait du gouvernement. Donc cela veut dire que le vote électronique est écarté, cette machine est écartée. C'est ce que je pouvais dire, mais il n'a pas compris. Il a préféré retourner pour essayer d'emballer la population. Pas de problème.
Non, ça, c'est une simple déclaration.
À ce qui concerne le seuil.
La disposition existe dans les textes.
La disposition dans les textes, c'est bien dit 237 terres. Si je pouvais vous amener et j'allais vous le lire, on dit on ne recourt pas au vote électronique. Donc cela veut dire que cette machine n'a plus sa raison d'être.
Non, mais vous n'avez pas la même perception que l'opposition sur le vote électronique.
Moi, je vous dis, c'est question de lire les dispositions de la loi ou du projet de loi qui sera demain une loi. C'est la loi qui doit nous départager. Ça, c'est un. De deux, il n'est pas dit que quand ça vient du gouvernement, nous sommes là comme une caisse de résonance que nous devons adopter. C'est tout à fait normal. Même si je dis que je m'indignais du propos du vice-premier ministre. Prenons le cas que je lui accorde cela et que le gouvernement nous a envoyé à un seuil à la circonscription. Je lui accorde. Mais nous, au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai bien dit que nous assumons. J'ai bien utilisé le mot. Nous, députés, nous assumons. Si hier, c'était dans les débats, il y avait des gens qui étaient contre, pour ou qui s'abstenaient, mais le fait que le vote a déjà eu lieu, la loi est déjà partie, même si moi j'étais contre, mais à ce jour, je ne peux que m'assumer parce que c'est une décision d'une chambre. Donc je m'incline de la majorité. Nous assumons qu'on a mis ça à 1% sur le plan national. Si le vice-premier ministre a dit que c'était 3% à la circonscription et que je me suis indigné, qu'à cela ne tienne, mais nous ne sommes pas une caisse de résonance que quand on nous envoie par un gouvernement un texte et qu'on n'a pas le droit de l'amender.
Merci.
Nous, en tant qu'Assemblée nationale, nous nous sommes assumés en réduisant de 3 à 1 et nous nous sommes dit sur le plan national, afin que nous puissions assainir le milieu de la démocratie, le milieu des partis
Merci,
politiques.
Merci, honorable. Joseph Kongolo, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kisangani.
Abednego Zakari Kingombe, depuis Kisangani. L'adoption de cette loi par la Chambre basse et sa recevabilité à la Chambre haute prouve que celle-ci finira par être promulguée en dépit de son caractère démocraticide, liberticide et confutogène. Comment cette loi a été déclarée recevable par le président du Sénat sans passer par le vote et envoyer directement à la commission PAJ. Cela me pousse à penser que le Sénat ne va pas refaire son exploit de 2015.
Oui, Joseph Kongolo.
Bien, je crois que j'ai fait allusion dans ma première intervention pour dire effectivement que le Sénat n'a pas fait effectivement recours, n'est-ce pas, à son exploit de 2015, n'est-ce pas, rejeter une loi qui était conflictuelle et liberticide. Bien, aujourd'hui, effectivement, M. Zakari de Kisangani constate avec moi effectivement que le Sénat a télescopé les procédures et nous attendons voir la suite parce que on leur donne quand même un bénéfice du doute sur la marche, n'est-ce pas, de cette loi au niveau du Sénat. Ben, ce que je veux dire, parce qu'il a parlé, il a donné des concepts très forts, liberticide, démocraticide, je voudrais tout simplement dire ce qui est vrai, c'est que dans le processus électoral, il y a des tentatives de tricherie, des tentatives d'irrégularité, qu'on appelle des tricheries, soit par la manipulation de l'outil électoral. On est en train de faire intervenir une machine électorale que les gens ne savent pas maîtriser. C'est une fraude, une tentative de fraude, une présomption de fraude, n'est-ce pas, par manipulation de l'outil électoral.
C'est là aussi que ça justifie politiquement.
Ça se justifie aussi politiquement, mais pas moralement. Parce qu'en fait, quand on se justifie politiquement, il faut avoir suffisamment des racines dans les masses, n'est-ce pas? Et avoir un discours qui accompagne, n'est-ce pas, votre action. Or, aujourd'hui, la majorité n'a pas un discours enraciné dans l'opinion. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que très vite, le discours de l'opposition est relayé, n'est-ce pas, dans l'opinion. En ce moment-là, vous êtes minorisé au niveau de l'opinion et votre discours ne s'est pas passé. Effectivement, il y a cette carence, n'est-ce pas, d'un discours, d'une communication politique stratégique. Ça, c'est la première chose. Il y a une autre chose, c'est encore une tricherie. Parce qu'il y a une série de tricheries, de tentatives de tricherie à la machine, comme je l'ai dit tout à fait par l'outil. Il y a encore d'autres par mauvaise loi électorale. Effectivement, ici, nous avons une mauvaise loi électorale qui ne met pas les gens en confiance. Alors, en ce moment-là, le résultat de cette élection est déjà sujet, n'est-ce pas, à caution. En ce moment-là, vous voyez déjà que nous sommes dans une présomption de tricherie.
Lorsque le président de la CENI défendait ses modes de vote, il avait évoqué ses avantages, notamment un vote moins coûteux, plus fiable et plus rapide, parce que vous avez les résultats les mêmes jours des élections.
Ok, je dis ceci. Toutes les raisons avancées, à la fois par le président de la CENI, à la fois aussi par la majorité, c'est à 30%, ils ont raison, à 30%, on a ouvertement besoin d'organiser la scène politique, c'est vrai, mais à 70%, il y a des intérêts catégoriels qui sont justifiés par la marche et de la CENI aujourd'hui et de la majorité. Donc, il y a des intérêts catégoriels qui sous-tendent, n'est-ce pas, à 70%, n'est-ce pas, cette démarche aujourd'hui. Elle est tellement conflictuelle, liberticide, conflictogène, comme le monsieur Zachary de Kisangani vient de le dire tout à l'heure. Et je crois que la sagesse de la classe politique aujourd'hui doit devoir se projeter dans l'avenir, être proactive pour pouvoir essayer d'avoir une loi qui stabilise au lieu de déstabiliser, qui réunit, qui rassemble au lieu de disperser.
Professeur Jacques Joly, maintenant que le projet de loi est à la commission PAJ, quels sont les scénarios possibles?
Mais, comme vous l'avez souligné au départ, et ça a été abondamment soulevé par les intervenants, vous avez senti qu'il y a eu un jambement, il y a eu une volonté de ne pas se plier totalement à la loi. On suppose que le président du Sénat, qui est un membre éminemment du cercle interinstitutionnel, pourra faire revenir les gens à la raison. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, dans une loi électorale, comme le dit démocraticiste, c'est-à-dire on combine la fraude par un seuil national qui n'existe nulle part, même dans le pays où il y a le seuil. Vous allez en Allemagne, il y a 500 sièges, 250 sièges du Bundestag sont soumis, n'est-ce pas, au suffrage universel uninominal. C'est ce qu'on appelle le correctif uninominal. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais couper le lien entre l'électeur et l'élu. J'ai beaucoup d'estime envers mon collègue Kakatoa. Mais, vous savez, il pourra avoir 50 000 voix dans son parti, les MR, encore qu'on ne le bouffe pas comme Péperlé. Mais, si son parti n'obtient pas n'obtient pas le seuil au niveau national, c'est un membre d'un parti qui aura eu 500 voix, parce que son parti au niveau national, disposant du fonds public, parce qu'il faut 1 000 $ par siège, donc pour l'ensemble du territoire, il faut avoir 500 000 $, et les 500 000 $, nous savons que ça viendra, n'est-ce pas, de fonds publics, et qu'ensuite, on exclut les indépendants en violation de la Constitution. Donc, Kakwata, qui a été élu par le peuple de Likasi, ne va pas être représenté, mais le peuple de Kolwezi va être représenté par quelqu'un qui a 500 voix.
Et donc, lui-même pourrait être préjudicié par cette loi.
Mais c'est une atteinte au droit du peuple à choisir ses dirigeants.
En conclusion, professeur Jacques Joly.
En conclusion, nous invitons la classe politique à beaucoup plus de sérieux, de maturité. On ne peut pas commencer à parler de la moralisation de la vie politique lorsqu'on a passé 10 ans à débaucher, à prendre les gens des autres partis, à créer des partis bidons pour garder le pouvoir, et lorsqu'on se rend, on dit voilà, c'est pas stratégique. Merci. Non, ils ne croient pas que c'est ça faire la politique. Ça, c'est faire de la politicaille.
Honorable Kakwata, votre conclusion?
C'est que vous devez comprendre, il y a plus de peur que de mal. Je suis président national d'un parti politique, je ne refuse pas. Mais ce qu'il faudrait savoir, que le seuil sur le plan national, j'aurais aimé que l'honorable Joly, le collègue, il est passé par la CENI, qu'il puisse dire combien de sièges uninominales nous avons déjà à ce jour. 60. Déjà, donc nous avons déjà 60 sièges uninominales, oui, sur les 500, ce qui fait que nous aurons 440. Sur les 440, facilement, si nous savons faire des consensus et que nous savons nous regrouper, facilement, nous aurons ces sièges d'1% sur le plan national, Joseph, et nous aurons des députés.
Votre conclusion?
J'appelle la classe politique à revenir à des meilleures dispositions d'esprit et de mettre l'intérêt des masses, la stabilité politique, n'est-ce pas? Et la stabilité politique, tout simplement, comme priorité de leur action. Voilà.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basunga qui était la technique, à Alain Héroux qui a réalisé cette émission sous la supervision de Félix Kipelamondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Okapi.